affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Si vous êtes marin, vous connaissez certainement l'expression « poteau noir ». Il désigne une zone maritime dans laquelle les vents contraires s'annulent tant et si bien que les navires sont contraints à l'immobilité. C'est, de façon assez surprenante, la métaphore qu'utilise notre invitée de ce jour, Madame Mireille Delmas-Marty, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, pour décrire la mondialisation. Nous voyons habituellement les mondialisations comme des flux, ce n'est pas contradictoire. Madame Mireille Delmas-Marty nous explique dans son dernier ouvrage, justement titré « Sortir du poteau noir », que ces flux contraires peuvent aboutir à une situation d'immobilité, de désarroi, de laquelle effectivement il faut sortir sous peine de rester encalminé. Et pour ce faire, au-delà de la description de la situation, elle nous propose une solution, l'humanisme juridique comme boussole pour nous permettre de naviguer sur l'océan de la mondialisation. Ce sont les thèmes que nous allons examiner dans notre émission de ce jour. Madame, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci pour votre invitation.
Pouvez-vous tout d'abord nous expliquer comment vous est venue l'idée de cette métaphore ? Car c'est vrai qu'elle est curieuse, je le disais. Habituellement, la mondialisation, on voit ça comme quelque chose de tumultueux, de dynamique, allant de l'avant. Et là, vous nous le décrivez comme quelque chose qui pourrait nous stopper, nous laisser quoi ?
En fait, j'ai été frappée par la métaphore d'abord des vents. C'est-à-dire que le droit est souvent présenté à travers des métaphores statiques. On parle des piliers, on parle des socles, on parle des fondations, des fondements, des droits fondamentaux, on parle de la pyramide des normes. Et moi, ce que j'observe depuis pas mal d'années maintenant dans le champ juridique, ce sont des mouvements. C'est une instabilité pratiquement permanente et croissante des systèmes de droit. Et ça m'a amené à penser qu'il fallait peut-être renouveler un peu le réservoir d'images et de métaphores. Et pour contrer au fond ces métaphores statiques, je me suis dit que les systèmes de droit ressemblent souvent plutôt à des nuages. Vous savez, quand on veut dessiner la forme d'un nuage, quand on a fini de le dessiner, le nuage a déjà changé de forme. Et j'avais un peu ce sentiment-là quand, par exemple, j'ai travaillé beaucoup sur le droit européen. On décrit un système, quand on a fini la description, ça a déjà changé. Le droit européen est déjà différent de ce qu'on avait commencé à décrire. Alors les nuages, ça m'a amené à la question des vents. Qu'est-ce qui fait bouger les nuages ? Qu'est-ce qui forme, qu'est-ce qui déforme, qu'est-ce qui transforme les nuages ? Ce sont les vents. Et en commençant à travailler sur les vents, je me suis aperçue que la mondialisation avait renforcé les vents contraires. C'est-à-dire qu'on a une sorte de sentiment que les vents qui sont nés de la mondialisation soufflent dans tous les sens. Il y a le vent de la liberté, mais il y a aussi le vent de la sécurité. Et on voit bien dans les affaires de terrorisme, par exemple, comment ces vents entrent en conflit. Il y a le vent de la compétition, mais il y a aussi le vent de la coopération. Et là, je dirais, c'est le domaine de l'environnement qui peut-être nous montre le plus directement l'opposition. Dans le domaine des nouvelles technologies, on a le vent de l'innovation confronté au vent de la conservation. Et dernier couple de vents contraires, celui qui nous est suggéré par les questions de migration, où vous avez à la fois le vent de l'exclusion, il faut protéger l'Europe, par exemple, contre des courants migratoires, des flux migratoires qui la menacent. Et puis, vous avez le vent de l'intégration. Au contraire, les migrations ont existé de tout temps. Il faut apprendre à intégrer les migrants. Et alors, devant ces vents contraires, l'idée, effectivement, c'est de dire comment diriger le bateau, le bateau sur lequel est embarquée l'humanité. Comment diriger ? Alors, si on garde la métaphore nautique, ben, il faut une boussole. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas quelle boussole choisir. Parce qu'au fond, à l'époque où les communautés étaient des communautés nationales, chacune se faisait sa boussole. Chacune avait son nord magnétique en fonction de son histoire, en fonction de sa géographie, en fonction de, au fond, tout ce qui constitue un peuple. Mais à partir du moment où on va vers une mondialisation, les grands problèmes que j'ai évoqués là sont tous des problèmes mondiaux, que ce soit le terrorisme global, le changement climatique pour l'environnement, l'émigration et autres questions. Ce sont des problèmes de nature globale. Alors comment, où trouver le pôle Nord, où trouver la direction à suivre face à une telle globalité? Et alors c'est ce qui m'a amené à la métaphore que vous avez citée d'emblée du poteau noir. En fait, dans le poteau noir, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que c'est un lieu au milieu des océans où se rencontrent les alizés du Nord et du Sud qui soufflent en sens contraire. Alors soit c'est la paralysie, que vous avez très bien décrite, le bateau est encalminé, c'est-à-dire les vents se neutralisent. Et du coup, le bateau ne bouge plus. C'est un peu le sentiment que pourrait donner l'Europe à certains moments. Mais il y a pire. Il y a aussi le cas dans lequel les vents sont tellement violents que le bateau coule. Donc, ce n'est pas seulement la paralysie, c'est la paralysie ou le naufrage. Oui, ou le naufrage. Ça peut être la paralysie, puis le naufrage. Et au fond... Nos sociétés à l'heure actuelle donnent parfois l'impression d'être dans un poteau noir parce qu'elles sont paralysées et elles sont pas loin du naufrage. Donc c'est dans ce sens-là...
Et parce qu'elles ne savent plus trop non plus dans quelle direction aller.
Alors, on ne sait plus dans quelle direction où aller. D'ailleurs, le mot déboussolé, je ne sais pas si vous l'avez noté comme moi, mais on l'emploie beaucoup. Par les temps qui courent, tout le monde se dit plus ou moins déboussolé. Alors, on aurait besoin d'une boussole, mais à l'échelle planétaire. Et à l'échelle planétaire... Je crois que si on a besoin d'une boussole, c'est peut-être pas la boussole habituelle, c'est-à-dire celle qui a un pôle d'attraction magnétique et géographique. Le pôle géographique étant un peu à l'écart du pôle magnétique, mais là, je n'entre pas dans ces questions scientifiques. Mais on a un pôle qui est déterminé, alors que dans la situation actuelle qu'on connaît avec la mondialisation, on ne voit pas comment on pourrait choisir. Si on choisit la liberté au lieu de la sécurité, ben c'est le désastre. Mais si on choisit la sécurité au lieu de la liberté, c'est le totalitarisme. Chaque fois, on peut faire le même raisonnement avec les couples de vents contraires. Si on en choisit un pour sacrifier l'autre, c'est ingérable à l'échelle mondiale. Donc, la boussole, si boussole il y a, c'est un peu le but que je me suis donné, c'est d'essayer d'imaginer une boussole. La boussole, elle n'aura pas un pôle magnétique, elle aura un centre d'attraction. Et cette boussole, elle a quelque chose qui permettrait de stabiliser nos sociétés. Et ce quelque chose, je l'ai appelé humanisme juridique. Mais en étant très consciente du fait que l'humanisme juridique, c'est, non seulement ce n'est pas une question nouvelle, mais c'est une expression qui est de plus en plus controversée, qui est discréditée, disons-le franchement. Et d'ailleurs, ça commence avec les textes de Michel Foucault. On lui disait, quand il annonce la mort de l'homme, on lui disait, mais qu'est-ce que vous aviez en tête avec la mort de l'homme? Vous renoncez à l'humanisme? Pas seulement juridique, mais à la notion d'humanisme. Et il répondait, écoutez, c'est devenu un mot tellement galvaudé, employé à toutes les sauces, à tous les objets, qu'on ne peut plus l'employer. Moi, je ne peux plus l'employer après la guerre. C'est un mot qui a été trop galvaudé après, je voulais dire, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, l'humanisme juridique, c'est une forme d'humanisme qui passe par le support du droit, et notamment des droits de l'homme. C'est quelque chose, effectivement, c'est une référence qui peut paraître obsolète. L'humanisme n'a pas empêché tous les actes de barbarie que l'on a pu observer avant la Seconde Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale et après la Seconde Guerre mondiale. Alors, on s'était fait une boussole avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais manifestement, elle n'a pas suffi à éviter toutes les dérives qu'on a pu constater depuis. Donc, je suis très consciente du fait que c'est un peu de la provocation de parler de l'humanisme juridique comme boussole.
Oui, et la première phrase de votre livre, c'est « Il ne suffit pas de placer l'humanité et ses valeurs au centre du monde pour se dire humaniste ».
Voilà.
Alors que d'emblée...
D'emblée, je reconnais que le mot est piégé, en quelque sorte.
Il est aussi piégé parce qu'il fait quand même grandement partie de la tradition philosophique et juridique occidentale. C'est une partie du problème, non ?
Alors, comment faire pour que... à l'échelle planétaire, l'humanisme juridique puisse redevenir, ou devenir, plus exactement devenir une boussole. Je crois que peut-être qu'il faudrait mettre l'expression au pluriel, les humanismes juridiques. C'est-à-dire que si on veut avoir un instrument de stabilisation, et je dirais s'agissant de nos sociétés, de pacification, on n'a pas besoin de la paix perpétuelle au sens où Kant en parlait. On a besoin de pacifier, c'est-à-dire on a besoin d'un processus. On n'arrivera jamais à la paix perpétuelle comme quelque chose d'un état statique et durable. Mais on peut aller vers un processus de pacification. Alors comment faire pour pacifier nos sociétés sans les uniformiser, sans supprimer les différences qui font quand même la saveur du monde,
oui,
et qui font peut-être la capacité de l'humanité à rebondir ? Parce qu'elle n'est pas complètement homogène, parce qu'il y a des cultures différentes. L'homme s'est finalement assez bien adapté à beaucoup de changements au cours de l'histoire. Donc, comment transformer les humanismes liés à chaque culture en quelque chose qui fonctionnerait pour l'ensemble des humanités ? Alors là, l'idée, c'est qu'on peut sans doute... intégrer les différentes conceptions de l'humanisme telles qu'elles se sont révélées au cours de l'histoire. Donc il y a l'humanisme des Lumières, de la philosophie des Lumières. Ça, c'est l'individu. C'est l'individu émancipé. Quand on demandait à Kant ce que veut dire l'expression des Lumières, il disait c'est le moment où l'humanité sort de l'état de minorité. Sortir de l'état de minorité, c'est l'individu émancipé, on pourrait dire. Ça, c'est un des visages de l'humanisme juridique. C'est un visage important puisqu'il a donné ensuite naissance aux déclarations des droits de l'homme et surtout à cette déclaration universelle de 1948 qui pose un principe qui reste, à mon avis, essentiel pour l'ensemble du monde et pas seulement pour l'Occident. C'est le principe d'égale dignité de tous les êtres humains. 1 égale 1. Et ce principe d'égale dignité, c'est ce qui permet de lutter contre les excès, aussi bien de liberté que de sécurité. L'égale dignité, c'est ce qui permet de dire que même face à une situation de terrorisme, on ne doit pas torturer, par exemple, parce que ça, c'est un principe de protection absolue que l'on transgresse si l'on torture sous prétexte de sécurité. Mais le principe d'égale dignité, c'est aussi celui qui s'oppose au nom de la liberté à faire n'importe quoi. Par exemple, à se fabriquer les clones pour avoir une réserve d'organes. C'est contraire au principe d'égale dignité. Donc, on voit comment cette conception de l'humanisme née dans un contexte particulier occidental qui est celui des Lumières, a sa place à une échelle plus large, à une échelle planétaire. Mais en même temps, il ne peut pas tout seul traiter tous les problèmes et donner des réponses à tous les problèmes. Donc on a aussi la conception traditionnelle, dans les sociétés traditionnelles, de l'homme qui est un homme en relation. Il est en relation au sein de sa famille, au sein de sa tribu, au sein de sa communauté. En Afrique du Sud, il y a l'expression d'Ubuntu, qui désigne l'humanité en relation. Et ça, c'est plus l'homme tout seul, c'est plus un égal un, c'est l'altérité, c'est l'autre. C'est le principe, autrement dit, de fraternité, voire même l'autre étranger. Et c'est le principe qu'on trouve très tôt exprimé par les philosophes, sinon par les juristes, qui est le principe d'hospitalité, que d'ailleurs Kant avait repéré quand il parle de sa paix perpétuelle, et plus exactement quand il parle de son droit cosmopolitique, le premier et unique article, c'est celui qui pose un principe d'hospitalité. Et ce qui est amusant, c'est la manière dont il motive ce principe d'hospitalité, pas pour des raisons morales, mais pour des raisons purement pratiques, c'est la logique pratique, parce que la Terre est ronde.
Alors, déjà dans la globalisation.
Comme la Terre est ronde, déjà la globalisation, l'homme ne peut pas se disperser à l'infini. Donc il faut bien qu'il circule et il faut bien qu'on admette l'étranger en ne le traitant pas comme un ennemi. Ça ne veut pas dire que l'étranger peut s'installer sur n'importe quel territoire, mais ça veut dire qu'il y a une reconnaissance de l'étranger comme à travers l'altérité. Et ça, c'est une deuxième figure de l'humanisme que j'appellerais fraternité, hospitalité en termes de principes juridiques. Et puis, vous avez tous les problèmes nouveaux, enfin nouvellement perçus, liés à l'environnement. Liés au réchauffement climatique en particulier, mais aussi à la perte de diversité, de biodiversité, toutes les questions rattachées à l'environnement. Et là, je dirais qu'on passe de l'individu à l'altérité, mais là, on passe de l'altérité à ce qu'on pourrait appeler les innombrables. C'est-à-dire qu'on passe à l'idée que l'être humain est en relation permanente, donc solidaire, doit devenir solidaire, des autres humains, il y a une sorte d'interdépendance des êtres humains à l'échelle du globe, il y a une interdépendance entre les humains présents et les humains à venir, vous savez qu'on parle de plus en plus dans le langage juridique du droit des générations futures, ou des droits à reconnaître ou à préserver pour les générations futures, et puis, au-delà encore, cette idée qui commence à être plus présente qu'elle ne l'était pendant longtemps, l'idée que l'être humain est interdépendant avec le vivant non humain, avec les autres êtres vivants dans la nature. Donc on arrive à une sorte de vision...
Considérablement élargie.
Considérablement élargie, mais c'est quelque chose qui se développe à l'heure actuelle. Il y a tout un mouvement en faveur des droits de la nature. Vous savez que récemment, je crois que c'était en 2017, il y a eu une affaire dans laquelle les droits d'une rivière étaient même représentés dans un procès. Les droits des animaux sont représentés aussi. Donc on a une sorte de vision d'un humanisme élargi aux innombrables êtres vivants. Et ça, c'est derrière le principe juridique qui anime cette forme de l'humanisme. Ce serait le principe de solidarité planétaire. Parce que nous sommes interdépendants, nous devenons forcément solidaires, qu'on le veuille ou pas. Donc autant organiser cette solidarité. Et puis il y a une dernière forme de l'humanisme juridique qui me paraît importante aujourd'hui, avec le développement des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle et le risque derrière, une sorte de robotisation, je dirais, des êtres humains. On fabrique des robots de plus en plus autonomes, mais en même temps, les humains sont de plus en plus robotisés. Je résume de façon un peu caricaturale, mais quelque chose qui est présent. Il y a une sorte de formatage de l'espèce humaine.
De plus en plus normé. Oui.
Comment ?
De plus en plus normé, potentiellement,
oui,
en tout cas.
Oui, oui. Et alors, pour répondre à cette vision, je répondrais personnellement qu'il y a une sorte d'imprévisibilité, d'indétermination de l'humain qui fait partie de l'humanisme. Et qui devrait être protégé par un principe que je propose d'appeler le principe de créativité. C'est-à-dire ce qui fait que l'homme, l'être humain, est imprévisible, est indéterminé, que l'inattendu peut se produire. Et ça me paraît important si on veut éviter de basculer vers une conception complètement formatée d'une humanité figée.
Alors en même temps, vous proposez des... Pour que l'on soit bien clair pour nos auditeurs, vous l'avez d'ailleurs sous-entendu dans vos propos, c'est qu'il ne s'agit pas d'une réflexion désincarnée, mais vous observez le droit tel qu'il est en train de se faire et d'évoluer sous nos yeux.
Oui.
Ça, c'est une première chose. La seconde, c'est que vous proposez un certain nombre de scénarios, parce que lorsqu'on voit ce droit évoluer et différents scénarios se mettre en place pour l'humanité, il y en a plusieurs. Est-ce que vous pouvez nous les présenter
Oui, alors...
Il y a trois principaux que vous avez sélectionnés, on pourrait peut-être en inventer d'autres d'ailleurs, mais
oui.
Dans l'ouvrage ici, il y en a trois présentés.
Alors, en fait, je pars d'une constatation, c'est que les communautés nationales s'étaient construites essentiellement sur la mémoire. Alors, le couple mémoire et oubli, parce qu'on sait que la mémoire est toujours un peu sélective et que l'histoire... équilibre à sa manière la mémoire et l'oubli. Mais en gros, les communautés nationales se construisaient de cette manière. La communauté mondiale, si elle doit exister un jour, elle ne se constitue pas sur une histoire commune qui n'existe pas encore, qui existera peut-être, mais qui, à l'heure actuelle, n'est pas perçue comme telle. On n'a pas vraiment d'histoire commune à l'échelle du monde. En revanche, ce qu'on commence à voir se dessiner, ce sont des récits, j'appelle ça des récits d'anticipation. C'est-à-dire qu'on voit des réflexions se mener par différentes catégories de juristes et de non-juristes, de philosophes, sur les scénarios. Et c'est là que l'expression que vous employez est tout à fait intéressante. Effectivement, ce sont des sortes de scénarios comme on fait dans l'anticipation. On anticipe en partant au fond d'une idée assez simple, c'est que le destin sera le même. Nous formons petit à petit une communauté mondiale, nous commençons à avoir conscience d'appartenir à une même communauté mondiale parce que nous commençons à avoir conscience du fait que notre destin sera le même.
Mais ça n'épuise pas la question, car il y a plusieurs façons de concevoir ce destin commun.
Le destin, c'est quel destin ? On sait qu'on aura un destin commun, on coulera, le bateau coulera ou il sortira du poteau noir, on sera ensemble. Mais quel destin ? Et alors là, c'est vrai qu'il y a plusieurs visions possibles. Alors, il y a plusieurs manières de les présenter. Parce qu'il y a le destin du tout marché, qui est au fond la vision dans laquelle... C'est un peu la vision qui est reprise par le projet chinois des nouvelles routes de la soie. C'est l'idée d'un... Le tout marché, dans le cas de la Chine, on arriverait à un empire monde, ce que j'appelle le scénario.
C'est un tout marché avec un tout État en même temps.
Hein. Un tout marché avec un tout État et avec un tout numérique, parce que le projet chinois fait une place extrêmement importante aux nouvelles technologies, y compris d'ailleurs des technologies effectivement au service du tout État. Et je pense à des technologies du contrôle social qui vont très loin.
Je pense
dès à présent, la reconnaissance de visage, par exemple, qui permet, si vous ne traversez pas dans les clous, d'afficher votre visage dans les rues alentour, ce qui amène à faire une pression permanente du corps social sur l'individu.
Et qui, dans la culture chinoise, doit être encore vécu de façon encore pire que ça sera vécu par un occidental, je pense.
C'est quelque chose d'extrêmement sensible à l'heure actuelle. Comme vision possible. Alors, il y a le tout marché, le tout numérique qui peuvent se rejoindre dans l'empire monde, à la chinoise, mais il y a aussi un scénario qui est présent et qui est important à reprendre. C'est ce que j'appelle le récit, puisque j'emploie ce mot de récit, le récit de la terre-mère, c'est-à-dire le récit au fond de la vision écologique du monde. La terre-mère, c'est une expression intéressante parce qu'elle est empruntée à des peuples autochtones qui ont introduit ce concept dans leur constitution en Équateur et en Bolivie, par exemple. L'idée, donc, que l'être humain doit être intégré, pensé comme faisant partie de la terre-mère. Alors, c'est quelque chose qui modifie considérablement la vision humaniste qui fait passer la solidarité dont je parlais tout à l'heure comme étant l'un des principes humanistes, la solidarité planétaire en principe fondamental. Le problème étant que dans ce deuxième scénario, comme dans le premier d'ailleurs, il est peu question de droits de l'homme. Les droits de l'homme passent un peu...
D'ailleurs, souvent, dans les récits, dans la narration sur le principe de terre-mère ou sur ces visions apocalyptiques du mal que nous faisons la nature, on voit qu'il y a souvent une dérive qui peut assez rapidement mener au fait que l'homme est néfaste par nature.
Voilà, il peut y avoir un versant, disons, totalitariste ou totalitaire.
Et anti-humaniste et même anti-humain.
Sauf si on arrive à ouvrir la vision. Et alors, il y a un troisième scénario possible qui est exprimé par des auteurs peu connus des juristes, en tout cas, qui sont essentiellement les auteurs antillais. Je pense à des écrivains poètes comme Édouard Glissant ou Patrick Chamoiseau, maintenant,
Édouard Glissant qui est très présent dans le livre.
Ils sont très présents dans le livre parce que je crois qu'en fait, ce monde qu'ils décrivent sous le titre de tout monde, ce qu'ils appellent le tout monde, c'est pas l'empire monde, c'est presque l'antithèse de l'empire, l'opposé de l'empire monde. Le tout monde, c'est un monde qui reconnaît son interdépendance, qui reconnaît donc la nécessité d'être solidaire, mais qui affirme en même temps ses différences.
Il n'a pas de centre, ce tout le monde.
Il n'y a pas de centre et il y a une pluralité d'expressions possibles. Il y a une pluralité d'expressions possibles et je trouve que c'est intéressant parce que c'est peut-être le seul scénario qui permette de conjuguer mondialisation et humanisation. Et en ce sens, je crois qu'il ouvre une voie à une vision qui ne cherche pas à éradiquer l'imprévisible, à tout prévoir et à tout formater d'avance. C'est la préservation de la diversité, au fond, qui fait la richesse, la saveur et peut-être la survie de l'humanité. Parce que je pense que si nous avons survécu si longtemps, alors que l'homme était une espèce fragile, au fond, très mal armée par elle-même, l'homme naît, dit-on, prématuré. Il est très faible à la naissance. Comment se fait-il qu'il ait duré déjà si longtemps ? C'est peut-être grâce à sa capacité de créer, d'inventer, de sortir des déterminismes. Et dans la petite marge de manœuvre qu'il a, elle n'est pas très grande, mais elle existe, il arrive à inventer ce qui a peut-être permis sa survie. Donc le principe de créativité, il me semble qu'il est préservé par ce dernier scénario. Alors, entre les trois scénarios, on peut aller à cinq si on sépare le tout marché et le tout numérique. À ce moment-là, on a le tout marché, le tout numérique,
oui,
la terre-mère, et puis l'empire-monde et le tout-monde.
Oui, ce sont des scénarios types auxquels se référer, mais bien, comme on le voit d'ailleurs dès à présent,
alors, où allons-nous ?
L'ensemble des choses se mixent.
Voilà, les choses se mélangent. Je crois que ce qui est important, moi je ne cherche pas à prescrire, je dis mes préférences, mais sans chercher à prescrire quoi que ce soit. D'ailleurs, j'en serais bien incapable, j'en ai ni les moyens ni la compétence. Mais en revanche, ce qui me paraît important, c'est d'être conscient de ce qui se passe, d'être conscient qu'il y aura des choix à faire, qui ne seront pas faciles, et qu'ils commandent en fait la suite de notre histoire, qu'ils commandent notre destin. Et je crois que dans cette prise de conscience et les réponses qu'on va donner à cette prise de conscience, les techniques juridiques, les dispositifs juridiques ont un rôle important à jouer.
Oui, c'est là où je voulais en venir. C'est que dans la description de ces possibilités, de l'histoire en train de se faire sous nos yeux, je prends acte de ce scénario, mais... que vient faire le droit dans tout cela ? C'est-à-dire que l'empire-monde, on sent que c'est le fruit d'une volonté politique. Le tout numérique, c'est la conséquence d'une innovation technologique dont certains nous disent que toute innovation finit par être appliquée quoi qu'il arrive et que le droit, l'éthique et tous les comités d'éthique qu'on pourra monter ne les empêcheront jamais. Et dans le troisième scénario, c'est presque plus une poétique de la mondialisation qu'une charte juridique de celle-ci, puisqu'elle laisse tout ouvert. C'est le dernier scénario qui a, à l'évidence, votre préférence, et comment ne pourrait-il pas l'avoir, d'ailleurs, pour nous tous. Comment le garantit-on juridiquement ? C'est-à-dire que dans l'imaginaire collectif et dans le mien aussi, le droit, c'est quelque chose qui, à un moment ou à un autre, doit devenir contraignant.
Va devenir contraignant.
Oui.
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord est-ce que le droit conduit forcément à l'échelle mondiale à l'uniformité, ou est-ce qu'il peut conduire à une certaine pluralité ? Moi, je pense qu'il y a des techniques juridiques qui évitent l'uniformisation, la fusion totale des différences. Et il y a notamment des techniques juridiques comme la marge nationale d'appréciation. Ou si on prend peut-être la marge nationale d'appréciation, c'est dans le domaine des droits de l'homme. C'est un concept qui a été inventé par la Cour européenne des droits de l'homme. Quand elle applique un principe comme la liberté d'expression ou la vie privée, elle admet que ce principe soit appliqué avec des marges. Un État va pouvoir interdire le foulard, un autre va l'autoriser sous certaines conditions. Donc ça, on a des techniques juridiques qui permettent de préserver cette diversité. Mais en même temps, ces techniques juridiques, vous posez la question, est-ce qu'elles sont contraignantes ? Est-ce qu'on va vers un droit mondial qui serait un droit de la mondialisation plus qu'un droit mondial, qui serait un droit qui permette d'harmoniser la multiplicité des systèmes de droits nationaux. Je pense que ça, c'est une des conditions si on veut préserver à la fois l'un et le multiple. C'est-à-dire qu'il faut à la fois qu'il y ait une marge de manœuvre pour chaque communauté nationale. Je ne crois pas à la disparition des États. Je ne crois pas qu'ils vont disparaître du jour au lendemain. Non seulement ce n'est pas faisable, sans doute, mais ce n'est pas souhaitable. Mais en revanche, on a besoin de mécanismes, au sens de techniques juridiques, qui rendent compatibles ces différences. Et là, il y a cette technique de la marge nationale. Il y a une autre technique qu'on découvre avec le changement climatique. Elle était apparue dans d'autres domaines, notamment le droit du commerce. Mais c'est surtout le changement climatique qui la rend visible. C'est le fait que les États, face au changement climatique, ont des responsabilités communes mais différenciées. Alors, c'est un concept intéressant parce que les États ont des responsabilités communes en ce sens que les objectifs sont communs. Les objectifs qui consistent à limiter le changement climatique par des limites quantitatives et qualitatives. Les objectifs sont communs, mais les responsabilités sont différenciées en ce sens que les moyens d'atteindre ces objectifs doivent être contextualisés, c'est-à-dire varient selon le contexte de chaque État. Le contexte historique, le contexte économique, le contexte géographique, le contexte culturel. Et j'entends par ces deux exemples montrer que le droit peut offrir des moyens pour faire que l'ensemble des dispositifs juridiques qui existent à l'échelle de la planète soient pas fusionnés, mais soient mis en harmonie, harmonisés. Donc il y a une sorte de cohérence d'ensemble qui puisse venir de la différence. Et ça, c'est quelque chose que, bien sûr, les poètes les poètes antillais n'ont pas conceptualisé, c'est pas leur travail, ils ont cette vision d'une poétique de la différence, mais on peut faire, sur cette vision d'une poétique de la différence, on peut faire une politique de la solidarité et on peut faire une politique du pluralisme. Ce que j'ai appelé dans un de mes livres plus anciens, le pluralisme ordonné. C'est une oxymore à première vue, l'ordre n'est pas un ordre pluriel, mais petit à petit, on découvre que l'ordre peut être un ordre pluriel, donc le pluralisme peut être ordonné. Et c'est un peu ça, la quadrature du cercle. On n'y arrive jamais complètement, mais ça donne un horizon possible, un horizon des possibles. D'ailleurs, la boussole dont j'ai parlé, on pourrait l'appeler la boussole des possibles.
Au fond, le droit tel que vous nous le présentez là, on en revient à ce que vous disiez au début. Vous le voyez comme quelque chose de dynamique. Le droit tel que vous le décrivez, ce n'est pas un nouvel ordre qui arrive et qui est plaqué sur le monde. C'est comme un processus qui serait en voie permanente d'incrémentation, de réinvention, de façon à mener l'humanité entière, j'allais dire cas à cas, mais un peu sous la forme d'un bricolage créatif.
Oui, j'aime bien ce mot de bricolage. Parce qu'au fond, vous savez comment le définissait Monod, prix Nobel de biologie, il disait, c'est faire de l'ancien avec du nouveau. C'est le contraire, pardon.
Faire du nouveau avec de l'ancien.
Faire du nouveau avec... C'est curieux, j'ai eu ce lapsus. C'est peut-être, ils sont toujours significatifs, les lapsus. Il faudra que je cherche la signification. Mais en tout cas, faire du nouveau avec de l'ancien, c'est ce qu'on fait dans le domaine juridique. On a les vieux concepts de droit national, de droit international. On essaye de faire du nouveau avec. Donc, on invente un droit national internationalisé. Et on invente un droit international contextualisé. On est dans plein bricolage, parce qu'on n'a pas l'instrument qu'il faut. Donc on prend nos vieux instruments et on les bricole. Et finalement, le vivant s'est fait comme ça, donc les sociétés humaines peuvent peut-être aussi apprendre le bricolage.
Oui, donc il n'est pas nécessaire, il serait même néfaste, selon vous, de passer directement à l'étape, entre guillemets, gouvernement mondial, avec un droit mondial, des tribunaux contraignants au niveau mondial, mais en même temps, ça montre un peu la limite. Par exemple, je prends un exemple concret pour essayer de comprendre comment on pourrait, prenons le cas de la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique ou en faveur de la biodiversité, si un pays ne se reconnaît plus les obligations qu'il s'était données quelques années auparavant en sortant, par exemple, d'un accord, toute ressemblance avec une puissance actuelle serait fortuite.
Comment fait-on ? C'est plus compliqué que ça, parce que prenez le changement climatique. les États-Unis ont retiré leur signature de l'accord de Paris sur le changement climatique. Qu'est-ce que ça a changé ? Pas grand-chose. Parce que les grandes villes américaines se sont déjà engagées dans des réseaux entre les villes, de les grandes villes de tous les pays. Les grands États américains, comme la Californie ou quelques autres, ont déjà pris des engagements. Et les entreprises transnationales, dont beaucoup sont d'origine américaine, se sont aussi engagées. Donc on s'aperçoit qu'il n'y a pas de gouvernement mondial. Et les États, surtout les grands États, ne sont pas prêts à entrer dans un mécanisme mondial contraignant. Mais on s'aperçoit en même temps que la gouvernance mondiale, qui n'est pas la même chose que le gouvernement du monde, la gouvernance mondiale est en place avec des quantités d'acteurs qui ne sont pas les acteurs publics étatiques. Il y a les organisations internationales comme acteurs publics qui commencent à jouer un rôle. Et puis surtout, il y a les acteurs non public, c'est-à-dire la société civile. La société civile, c'est qui concrètement ? Ça peut être les entreprises transnationales que je viens d'évoquer ou les investisseurs qui commencent aussi à prendre des mesures pour limiter le changement climatique. Ça peut être les organisations non gouvernementales, les ONG, avec les mouvements religieux, le pape qui s'est manifesté à travers son encyclique. Et puis, il y a encore aussi le rôle des scientifiques. Ceux qui ont sonné l'alarme en matière de changement climatique ou en matière de biodiversité, ce sont les scientifiques, les climatologues en l'occurrence. À l'heure actuelle, pour les migrations, ce sont les démographes qui sonnent l'alarme. Donc, on a une sorte de gouvernance mondiale qui se met en place et qui contourne, d'une certaine manière, le rôle des États. Alors, je ne dis pas que c'est suffisant, c'est certainement très insuffisant, mais il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose qui a commencé à bouger, qui a commencé à se mettre en place. Et je trouve quand même assez intéressant d'observer la montée en puissance d'autres décideurs que les États. J'ai parlé aussi du rôle des collectivités territoriales, les États, les villes, qui joue un rôle non négligeable pour le changement climatique, mais en matière de migration aussi. Donc sur tous ces problèmes qui sont des problèmes globaux, sur lesquels aucun État, même une superpuissance, n'a le moyen de trouver la solution tout seul ou d'appliquer la solution tout seul, il me semble que se met en place quelque chose qui n'est pas une démocratie, on en est très loin à l'échelle mondiale, mais quelque chose qui est une sorte d'organisation. Alors, au lieu de parler de la séparation des pouvoirs, comme le faisait Montesquieu, j'oserais parler d'une une sorte d'articulation SVP, savoir, vouloir, pouvoir. Savoir, ce sont les scientifiques, les économistes aussi, qui jouent un rôle parfois moteur. Vouloir, c'est la société civile. Et pouvoir, ce sont à la fois les pouvoirs étatiques et les pouvoirs économiques. Et au fond, il y a quelque chose qui pourrait se rééquilibrer à cette échelle-là, dans une vision optimiste, peut-être peu réaliste, mais je crois qu'on n'a pas le choix. Si on veut sortir du poteau noir, il faut être un tout petit peu utopiste aussi.
Oui, peut-être qu'il faut perdre la vision très française d'un État nécessairement, ou d'un pouvoir nécessairement centralisé, rationnel, pyramidal, et qu'après tout, c'est vrai que différentes formes
les
de pouvoir
peuvent ressembler
au monde médiéval où il y avait des pouvoirs.
Non, exactement. On peut revenir aux sociétés pré-étatiques, mais on ne revient jamais à la case départ. Donc, il faut espérer que ça monte en spirale, que ça ne tourne pas trop en rond. Mais on peut imaginer une gouvernance mondiale beaucoup plus complexe que la gouvernance des États-nations.
Oui, il ne s'agit pas de reproduire le même schéma en plus grand.
Non, je crois que ça, ce serait l'erreur. Mais il faut imaginer. J'insiste par ailleurs beaucoup dans mes travaux sur les forces imaginantes du droit. Je crois qu'il faut... Non, pas, c'est pas l'imagination débridée, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi sous prétexte de revendiquer un droit à l'imagination, mais essayer de sortir des schémas...
Oui, parce qu'on nous a déjà fait le coup.
On nous a déjà fait le coup et on ne tient pas à recommencer. Mais en revanche, on peut sortir en même temps des schémas qui nous enferment et qui ne sont pas forcément adaptés à l'échelle d'une planète.
Écoutez, c'est donc un appel à l'imagination. Je trouve que c'est un des points séduisants de l'ouvrage. C'est qu'on sent que dans pour chaque individu, mais aussi pour des communautés d'individus et peut-être aussi pour l'humanité entière, on a toujours une identité qui est héritée et une identité de projet. En fait, si je comprends bien, c'est ce que vous nous proposez, c'est un versant juridique de cette identité de projet.
Un projet qui n'est pas un programme, parce que c'est un projet qui reste ouvert et en partie indéterminé, mais qui indique une direction. C'est un projet aventure, un peu.
Écoutez, c'est ça l'anticipation, non ? C'est imaginer ce que l'on doit faire maintenant à partir de visions de l'avenir.
Voilà, mais sans enfermer l'avenir par un programme qui serait pris. C'est ce que je crains un peu avec les nouvelles routes de la soie, c'est que ça ressemble un peu trop à un programme, avec des échéances qui sont fixées d'avance, je m'en méfie un peu.
Il y a une quête de pouvoir aussi, peut-être, non ? Avec une quête de pouvoir, quand même, ça ressemble quand même à quelque chose avec un centre et une périphérie.
Vous savez que les Chinois, en 2018, ont introduit dans leur constitution cette formule étonnante, quand on y réfléchit, que la Chine doit contribuer à bâtir le destin commun de l'humanité. Donc, ils ont déjà cette vision. Que chacun, alors il faut espérer que ce ne sera pas que la Chine, que chacun devrait être responsable du destin commun de l'humanité. Mais je préfère qu'on ne confie pas à un seul pays le destin commun de l'humanité. Donc il faudrait que chacun se considère que, au fond, les États sont souverains, mais ce n'est pas une souveraineté solitaire, c'est une souveraineté qui devrait être solidaire. Chacun prend en charge les intérêts nationaux plus une partie des intérêts communs ou des biens communs de l'humanité. C'est ça qu'il faudrait espérer.
Oui, ce serait une façon d'étendre et d'approfondir la notion de multipolarité, en quelque sorte.
Oui, on peut le rattacher à l'idée d'une organisation multipolaire, c'est vrai.
Mais en même temps, on sent quand même que cette multipolarité, aujourd'hui en tous les cas, est aussi une sorte de match pour déterminer quelle serait la puissance dominante
La multipolarité,
du siècle à venir,
hein. Je crois que l'erreur, c'est peut-être de la cantonner uniquement sur les États. La multipolarité telle que je la conçois, telle que je l'ai illustrée par les exemples de changement climatique ou des migrations, c'est une multipolarité dans laquelle entrent d'autres acteurs que les acteurs étatiques. Les États seront peut-être les derniers à se rallier. Je pense que le mouvement ne viendra pas des États. Le mouvement viendra des autres acteurs. La société civile, civique, les citoyens, les scientifiques, les entreprises, les opérateurs économiques qui se rallient parce qu'ils sont pratiques, ils ont l'esprit pratique et ils se rendent compte à certains moments. Les entreprises se sont ralliées sur le changement climatique parce qu'elles se sont rendues compte qu'on n'avait pas vraiment le choix. Les investisseurs ont raisonné de la même manière. Et les États, au fond, sont les derniers à se rallier.
Alors bien entendu, madame, je comprends votre enthousiasme face à ce scénario d'une poétique de la mondialisation débouchant sur un nouvel équilibre. Toutefois, est-ce que ce n'est pas un petit peu idéaliste ou optimiste ?
Je comprends que vous posiez la question parce que c'est vrai que de façon plus froide, on pourrait dire le plus vraisemblable, c'est qu'effectivement l'humanité va rester dans le poteau noir. Elle ne réussira pas à en sortir. Souvent, on entend l'expression « on va dans le mur ». C'est pas faux. Mais je pense que même s'il y a une seule chance sur 1 million de sortir du poteau noir, il faut la tenter. Donc c'est ça que j'essaye de trouver. C'est comment cette chance peut être tentée. Et je pense que précisément, plus le tableau est noir et obscur, plus on peut se dire « c'est pas le moment de baisser les bras ». Au contraire, il faut trouver la sortie.
Mais écoutez, vous nous proposez en tout cas une porte de sortie et un chemin.
Non. Même s'il est étroit, essayons de le prendre.
Et il est décrit dans ce livre en forme de carte mentale de l'avenir, « Sortir du poteau noir, l'humanisme juridique comme boussole » par Mireille Delmas-Marty aux éditions Buchet-Chastel. Merci beaucoup, madame.
Merci.